173, c'est le nombre de donjons dans tous les jeux Zelda. Un mec a tenté de tous les faire à la suite, il y a passé 240 heures. Un chiffre impressionnant, mais desquels vous souvenez-vous vraiment? On va y lire pour vous le plus dur, le plus original, le plus effrayant, les donjons Zelda les plus légendaires. Quels sont les donjons les plus durs de Zelda? Vous êtes presque à la fin de votre jeu. C'est l'épreuve finale, et là, bim, un glitch bloque votre partie à jamais. C'est ce qui est arrivé à un grand nombre de joueurs de Link's Awakening dans la tour du vautour. Le donjon est classique, plein d'allers-retours, des monstres assez chauds, et la mécanique du boulet pour pimenter les ennemis. Et c'est là que ça coince. Si tu te mets dans un coin bien spécifique, le jeu se softlock. Tu peux plus bouger le boulet, game over. Il te reste plus qu'à recréer une nouvelle partie. Dans les Zelda 2D, ce qui a vraiment trauma tout le monde, c'est le palais du vent de Minish Cap. Il a pas l'air si dur que ça. Comment un jeu aussi mignon, tout gentil, pourrait te faire roter du sang? Avec l'item de la cape de Rock, Link peut planer quelques secondes. Du coup, les devs se sont dit que ce serait cool de mettre de la plateforme à ce moment-là. Sauf qu'elles sont soit trop petites, soit trop éloignées, ça se joue à la seconde près. Mais attendez, c'est pas fini. Une fois tombé des plateformes, on ne perd pas juste un cœur, on retombe un étage en dessous. Sans oublier le boss assez relou, basé sur une mécanique de double qu'il faut gérer pour faire un max de dégâts. Et avec, bien sûr, de la plateforme à l'aide. Ça a fait rager tellement de monde qu'il y avait carrément des forums où le topic principal c'était de trash talk sur le donjon. Mais bon, on va pas se mentir, niveau donjon dur en 2D, on a vite fait le tour. Plus restreint dans leurs énigmes, mais limités techniquement, ils finissent vite par tous se ressembler. Prenez par exemple les temples de glace de A Link to the Past et Between Worlds, connus pour leurs difficultés. Ils sont pratiquement identiques. On peut pas faire un mètre sans glisser, à chaque déplacement, on se retrouve à faire des calculs de fou pour savoir où Link va atterrir. Sans parler des pièges, ça va, c'est pas Dark Souls, mais c'est rageant. Non, la vraie diversité, on la trouve avec le passage à la 3D. Je pense à la tour des cieux de Skyward Sword, avec ses salles déplaçables façon shuffle. C'était incroyable ça, mais le reste du jeu était quand même assez facile. Pour de la vraie bonne difficulté, il faut se tourner vers Twilight Princess. Déjà, on a Celestia et son vent bien relou qui t'empêche d'explorer comme tu veux. Et la tour du jugement avec ses pièges super vicieux. Celui qui a vraiment fait rager tout le monde, c'est le temple abyssal. C'est grand, 6 étages labyrinthiques bien galère, ça s'articule autour d'un grand escalier central qui vous donne accès aux étages. On peut le faire tourner dans plusieurs sens, puis aller et venir librement. C'est pas vraiment une structure salle par salle, mais plutôt un donjon au style d'un Metroid. On explore une pièce, on obtient un item, on fait demi-tour d'autres salles, puis à un moment, l'item nous sert. Ajoutez à ça le fait que certaines pièces ont un côté immergé, et vous obtenez une bonne migraine. De toute façon, on le sait tous, l'eau et les jeux vidéo, c'est jamais un plaisir. Je pense qu'on se souvient tous du temple de l'eau d'Ocarina of Time, le grand traumatisme de toute une génération. Pourtant, il avait l'air cool comme ça. Un PNJ aimé des joueurs nous accompagne dans le donjon, on se bat contre Dark Link qu'on n'avait pas vu depuis Zelda 2, où est le problème? Le problème, tout le reste. C'est super long. Les joueurs les moins courageux disent mettre des mois à sortir du temple. Pour certains, même 2 ans et demi. On doit sans cesse switcher entre bot normal et en plomb, ouvrir le menu, aller sur l'item, c'est beaucoup trop long pour un truc qu'on doit faire tout le temps. Imaginez l'enfer pour un enfant qui maîtrise mal la manette et les menus. Mais le pire, c'est sa structure. Un immense labyrinthe, des allers-retours continus, en jouant avec les niveaux de remplissage de l'eau, 5 différents, qui changent totalement la façon d'appréhender le niveau. On finit très vite par s'emmêler les pinceaux et galérer comme pas possible. De plus, les portes à clé sont ouvrables dans l'ordre qu'on veut. Du coup, certains se sont crus bloqués à jamais en les ayant ouverts dans le mauvais ordre. C'est ce que je croyais moi, et c'est pour ça que j'ai jamais fini le niveau. Mais en fait, c'était pas vrai. Il y a toujours une solution pour s'en sortir, ça a dû être un casse-tête pour les développeurs. Paradoxalement, c'est cette difficulté qui a fait sa renommée. Tout fan de casse-tête rêve de s'y frotter. Mais n'y jouez pas sur la version 3DS et Master Quest. Nintendo a réduit la difficulté du donjon en le rendant plus linéaire. Preuve qu'ils avaient peut-être un peu abusé. Les donjons les plus inventifs. Dans les inoubliables, il y a ceux qui marquent par leurs bonnes idées de game design. Prenez la caverne antique de Skyward Sword. Construit sur le principe de dualité, le yin, le yang, avec un immense Bouddha au milieu de la pièce. La partie supérieure est lumineuse, apaisante, divine, mystique, mais dès que Link descend, changement d'ambiance. Des salles sombres, crasseuses, avec plein de morts vivants qui nous sautent dessus. Ce qui nous sépare des deux mondes, c'est un fil à monter et à descendre. C'est en fait une référence au conte d'Akutagawa, Bouddha qui, ayant pitié d'un bandit en enfer, décide de le faire monter au paradis à l'aide d'un fil d'araignée. Logique que le boss soit Bouddha lui-même, probablement le meilleur boss de toute la série. Skyward Sword marque aussi par ses passages mémorables au milieu des donjons, des acrobaties sur des chemins de lave ou des attaques de galions au milieu d'une mer de sable, peut-être le donjon le plus surprenant de la série. On a l'habitude de temples antiques souterrains, pas de pirates des Caraïbes. En termes de créativité, moi j'ai toujours adoré les épreuves avant le boss de fin. C'est souvent un récapitulatif de toutes les mécaniques qu'on a appris pendant la partie. Je pense au dernier dernier donjon de Link's Awakening. On doit faire des allers-retours et réaffronter d'anciens ennemis en utilisant tous les objets. Les énigmes sont poussées au niveau max et reposent sur un mécanisme assez intéressant d'automates à pousser. La carte elle-même est en forme de tortue, comme le nom du donjon, parfait pour nous préparer au grand final. Mais pour moi, c'est encore Ocarina of Time qui décroche la palme. Le château d'Hyrule a été conquis par Ganondorf et il y a fait un grand déménagement. Il est maintenant construit autour d'une grande pièce centrale qui est reliée à 6 autres pièces, feu, forêt, eau, etc. Pour avancer, il va falloir triompher d'anciennes énigmes. Sauf qu'ici, les salles, on a beau les connaître, c'est pas pareil. Les énigmes sont plus dures, avec un twist à chaque fois. Dans la salle de la forêt, on est confronté au vent, dans la salle de l'eau, il y a de la glace. Chaque salle est la meilleure version d'elle-même pour pousser le joueur dans ses derniers retranchements et le préparer à l'affrontement final. C'est pas le plus dur du jeu, le combat contre le mini-boss non plus, mais c'est pas ça le plus important. Même si je l'adore, c'est objectivement pas le plus créatif de la série. J'en ai retenu deux. La première pépite, elle est dans Zelda Wind Waker. C'est souvent le grand oublié, il a pourtant des donjons sympas comme celui de la caverne du dragon. Une longue ascension de la montagne avec un boss au cœur du volcan, ou la tour des dieux à faire en bateau avec des golems ultra technologiques. Celui vraiment au-dessus du lot, c'est la forteresse maudite. C'est l'un des rares donjons du jeu à innover un peu la formule qu'on connaît depuis A Link to the Past. On le parcourt deux fois. La première au tout début du jeu, sans notre arme s'il vous plaît, donc on avance en s'infiltrant. On est obligé de se plaquer contre les murs, ramper au sol, se cacher dans un tonneau, ça permet d'apprendre les mécaniques sans tout bourriner à l'épée. Mais quand on retourne armé et bien plus fort, mamma mia, c'est l'heure de la vengeance. En permettant de refaire le donjon avec son équipement complet, le joueur se rend compte des progrès qu'il a fait avec Link. Côté scénar, c'est un moment clé. Des révélations de fou, la quête de la Master Sword et l'introduction de Ganondorf, moi ça m'a marqué. Mais voilà, il faut un gagnant et pour moi, c'est Majora's Mask et sa forteresse de pierre. L'avant-dernier donjon du jeu, situé dans la région d'Ikana, la vallée des morts. Tout ce que vous y croiserez ne sera que désolation, un avant-goût à ce qui vous attend dans la forteresse. C'est le seul, avec le dernier optionnel, à nécessiter l'utilisation des trois masques de transformation en même temps, Goron, Zora et Mojo. Il y a une assez grande variété d'énigmes, certaines utilisent le bouclier miroir qui renvoie la lumière, par exemple ici où faut la faire rebondir plusieurs fois pour déverrouiller la suite, dans le même style que celle des lasers de Portal 2. D'autres utilisent l'hymne du vide, un chant vous permettant de faire des doubles de vous-même, utile pour plein de casse-têtes assez retors à base de boutons à laisser enfoncer. Après avoir bien galéré, vous pensez arriver à la fin, mais non. En frappant d'une flèche de lumière l'entrée du donjon, celui-ci change totalement de sens. La gravité s'inverse. Le sol devient le plafond, et le plafond le sol, deux donjons en un. Les devs nous ont vraiment offert du caviar. Les donjons les plus effrayants. Un donjon, c'est pas que des énigmes et des boss, c'est aussi une ambiance. Alors bien sûr, il y a la vibe Indiana Jones et Tomb Raider d'un temple perdu, mais il y a aussi ceux qui font frissonner. Twilight Princess, c'est clairement LE jeu sombre de la saga. Nintendo était en plein dans sa période emo, et bordel, qu'est-ce que c'était bon. Que ce soit le monde des ombres, les habitants de Celestia et surtout ces donjons, presque tous ont une ambiance effrayante ou pesante. Que ce soit le temple de la forêt à l'intérieur d'un arbre mort avec des petits singes... mignons, ou bien même la tour du jugement et ses mobs creepy, le pire est clairement celui des ruines du Pic Blanc. Un manoir abandonné, construit sur 3 étages où vivent maintenant des yétis. Plus on avance, plus on se rend compte que quelque chose cloche. On y trouve des armures, des épées, des boucliers, de l'artillerie. Bizarre. Pourquoi ça dans un manoir? On finit par tomber sur ce qui semble être des anciens cachots et une armure complète, bien trop grande pour un Illien. Le mini-boss ne ressemble à rien de connu dans l'univers Zelda, et puis vient le boss de fin, on s'attend tous à voir un énorme monstre qui protège le miroir des ombres, l'item qu'on vient chercher à la base, sauf que non. Le yéti qui nous a accompagné tout le donjon est là et... Ça y est, vous le sentez le frisson? Ici, l'horreur n'est pas que le jumpscare. Le storytelling par l'environnement, tout est suggéré. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Plusieurs théories circulent sur le net, mais la plus populaire voudrait que ce manoir ait servi à la famille royale d'Hyrule pour faire des expériences sur les yétis. Toutes ces armures seraient à leur taille pour en faire des super soldats. Le champion du storytelling, c'est Ocarina of Time et son fameux temple de l'ombre, caché dans le puits du village Cocorico, un village d'ordinaire tranquille et apaisant, tout le contraire de ce qu'on s'apprête à explorer. Chaque salle a un rapport avec la mort ou la torture, des pièces couvert de sang, du jamais vu dans un Zelda. Certaines théories racontent que ça aurait servi au massacre des Sheikah par la famille royale d'Hyrule, une référence à l'unité 731 où les Japonais ont perpétré des horreurs sur leurs prisonniers. Le donjon vous force métaphoriquement à trouver cette vérité enfouie. Toutes les énigmes sont basées sur le monocle de vérité, un objet qui décèle le vrai du faux. Et je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de jumpscare pour faire peur. Bah là, il y en a. Avec les effrois, des morts vivants hurlant en vous voyant. Sans parler du mini-boss mondieu, un énorme tas de chair ambulant. C'est un boss de Zelda ou un SCP? Entre le manoir et le temple de l'ombre, c'est clairement un ex aequo. Au final, c'est quoi un bon donjon? On connaît tous le schéma classique. Salle, énigme, carte, mini-boss, objet, encore énigme et boss. Et ben, il y a quelques temples qui ne respectent pas cette règle. Prenez la lune de Majora's Mask. Faisable uniquement si vous avez débloqué tous les masques du jeu. Un donjon constitué de 4 épreuves, chacune sur le thème d'un des masques de transformation. A chaque fois, faut le donner, perdre ce qu'on a acquis pendant toute l'aventure. Alors, on hésite, surtout qu'on ne sait pas ce qu'on gagnera à la fin. Puis, Link doit passer l'épreuve du guerrier, un enchaînement de combats contre des monstres bien balèzes. Une fois ces épreuves passées, l'enfant au masque de Majora vous donnera celui de la puissance des fées, le masque le plus puissant du jeu. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il n'est faisable que si vous avez terminé le jeu à 100%. C'est un peu l'ultime challenge avant le boss, avec une récompense très stylée, un Link adulte à la forme démoniaque, c'est ça qu'on veut. Et puis il y a Skyward Sword, probablement le Zelda qui a pris le plus de risques de toute la série. Pour le meilleur et pour le pire, hein, on aimait tous l'open world, mais les passages en oiseau, c'était pas obligé. Le donjon qui m'a marqué, c'est celui de la raffinerie Lanel, une sorte d'usine abandonnée que l'on doit explorer pour retrouver Zelda. La mécanique principale est celle du temps. On peut revenir dans la raffinerie d'antan grâce aux chronopierres, des gros cailloux bleus qui permettent d'intervertir présent et passé. À un moment, on doit carrément suivre un wagon de chronopierres pour qu'il nous débloque le chemin. C'est assez chaud, les mobs du passé repop et attaquent tout le temps, une sorte de mission d'escorte spatio-temporelle. A chaque activation, le joueur doit bien calculer son coût et anticiper les effets de la pierre. On a littéralement des énigmes en 4 dimensions. Ça serait ça le dernier donjon le plus original de la série? Pas tout à fait. Il nous reste un dernier jeu dont on doit parler avant de donner le verdict. On avait volontairement essayé de ne pas trop en parler, mais voilà, c'est le moment. Breath of the Wild. On est tous d'accord pour dire que ce jeu est une giga masterclass. Mais on le sera peut-être un peu moins si on parle des donjons. Il y en a que 4, ils sont pas vraiment fous. Ok, ils n'ont pas les mêmes patterns que les anciens, mais ils ont tous la même structure et n'ont pas vraiment d'énigmes mémorables. La seule chose qu'on retient, c'est cette satanée ombre de foudre qui nous a fait suer. Heureusement, il y a les sanctuaires, clairement le gros point fort du jeu niveau énigme. Tout est interconnecté pour permettre aux joueurs d'explorer le monde de fond en comble. Ce sont des balises, mais aussi des checkpoints qui rappellent au joueur les fonctionnalités qu'il peut utiliser en jeu. Ils sont courts, entre 10 et 20 minutes, parfaits pour un open world. Le favori des joueurs, c'est celui de l'île Finalis. Link est sur une île sans son stuff. Tout le but de l'épreuve est de battre tous les mobs de l'île sans armes. Ça nous force à innover, inventer des stratégies et utiliser à fond la tablette Sheikah. Le concept plaît tellement qu'il sera repris et amélioré dans les deux DLC du jeu. Si on considère que ces sanctuaires sont des salles, alors le monde de Breath of the Wild est un donjon géant. Dites-moi en commentaire quel est votre donjon favori, même si en grandissant, ces lieux ne nous impressionnent plus autant. Il reste au fond de nous cette nostalgie de l'appel à l'aventure.